Ulrich Münstermann, le tueur au camping-car. Les gendarmes remarquent que le fil du téléphone qui longe l'un des murs extérieurs de la maison est sectionné. Il a probablement été coupé avant que l'agresseur ne pénètre dans la maison pour empêcher sa victime d'appeler les secours. Une prévoyance que l'on n'observe pas souvent dans des affaires criminelles. Il est fort probable que le suspect recherché n'en soit pas à sa première agression. En revanche, l'état de la chambre et de la salle de bain démontre qu'il n'a pas autant fait preuve de minutie. Chaque élément de la chambre en désordre est inspecté. De nombreux prélèvements sont réalisés. Il y a du sang dans la chambre et dans la salle de bain. Peut-être le sang de l'agresseur, dans la mesure où Sylvie semble s'être férocement défendue. Plusieurs cheveux sont recueillis sur le lit, ainsi que du sperme. Un plaid a également été placé sous scellé. Dans son rapport, le médecin légiste constate un viol et une mort par noyade. Le visage porte également la marque d'un violent coup donné par une botte. Comble de l'horreur, la jeune femme aurait pu être agressée sexuellement avant et aussi après sa mort. À Avallon, une petite ville tranquille de 7000 habitants en Bourgogne, le meurtre de Sylvie fait rapidement parler de lui. Personne ne comprend comment une jeune fille sérieuse et sans histoire a pu être la victime d'un crime aussi abominable. Sylvie Bâton a toujours été entourée par l'amour de ses parents, deux agriculteurs. Elle effectuait des études en lettres modernes à Dijon au moment du meurtre. Le voisinage témoigne de sa gentillesse, mais surtout de sa discrétion. Pour l'heure, on ne lui connaît aucun ennemi. Pas même une mauvaise rencontre qu'elle aurait faite au lycée ou à la faculté. Au lendemain du meurtre, dans la ville, l'heure est à la suspicion. Des affaires criminelles, dans des coins de France aussi paisibles, ça ne passe jamais inaperçu. Tout le monde y va de sa théorie. Tout homme entre 20 et 50 ans pourrait être le coupable idéal. Il est facile pour un tueur aussi déterminé de pouvoir se fondre dans la masse. Le week-end du 5 mai 1989 n'a peut-être pas été choisi au hasard. Tous les regards étaient portés sur les préparatifs et les festivités de la foire exposition de la ville, pendant laquelle de nombreux visiteurs viennent à Avallon. De leur côté, les enquêteurs mettent en place de nombreux dispositifs pour tenter d'appréhender leurs coupables. Le 11 mai, à l'occasion des funérailles de la jeune étudiante, ils mettent en place un plan bien particulier. Ils partent du principe que l'assassin pourrait se présenter à l'enterrement de Sylvie. Ils demandent à la famille de se tenir le long du mur de l'église, afin que tous leurs proches viennent, tour à tour, leur serrer la main et les embrasser pour leur présenter leurs condoléances. Les enquêteurs, qui eux sont positionnés dans les locaux de la mairie, ont une vue bien dégagée de cette partie de l'église. Ils cherchent à repérer la première personne qui manquerait à son devoir d'hommage, mais l'enterrement de la jeune femme se déroule dans le plus grand respect. Les gendarmes ont tout de même pris l'initiative de relever toutes les plaques minéralogiques des véhicules venus assister à l'enterrement. L'une d'elles les conduit à un proche de Marc Bâton, le frère de la victime. L'homme, dont l'identité a été tue, car non impliqué dans le meurtre, est placé en garde à vue. Il réside à quelques kilomètres d'Avallon. De plus, il a déjà été arrêté pour une agression sexuelle. Il s'avère qu'il s'agit d'une fausse piste. Qu'importe. Nous sommes en juin 1989, et il se pourrait bien que le meurtrier de Sylvie soit arrêté. Les gendarmes en sont persuadés, la famille est soulagée. Le premier juge d'instruction, nommé en urgence au moment du meurtre, s'apprête à commettre une grave erreur judiciaire. Le suspect numéro 1 se nomme Armando da Silva. Les enquêteurs en étaient venus à la conclusion que le meurtrier de Sylvie devait forcément posséder la clé de son domicile et bien connaître la maison. Or, Armando est l'ancien locataire de la maison occupée par la victime. Il y a vécu plusieurs années, a même installé lui-même la ligne téléphonique qui avait été retrouvée sectionnée. Étrangement, il a encore en sa possession les clés du logement. Armando s'était présenté lui-même à la gendarmerie pour expliquer cela. Le juge d'instruction pense qu'il s'agit là d'une tentative de disculpation. Il ordonne une analyse ADN et un prélèvement de cheveux pour les comparer avec ceux retrouvés sur la scène du crime. En 1989, l'analyse ADN est encore imprécise. Elle se limite à une comparaison des cheveux et au groupe sanguin. Il s'avère qu'Armando possède le même groupe sanguin que l'assassin, AB, et que ses cheveux correspondent à 90%. C'est suffisant pour l'envoyer en détention criminelle sans qu'aucune nouvelle expertise ne soit réalisée. Le sperme n'avait pas non plus été analysé. Armando da Silva reste derrière les barreaux pendant 18 mois à la maison d'arrêt d'Auxerre. Le fait qu'il ait pu connaître la victime, puisqu'il était videur de nuit dans une boîte d'Avalon, ne joue pas en sa faveur. Pendant tout ce temps, son avocat se bat pour qu'on lui accorde une mise en liberté conditionnelle. Il affirme que les preuves ne reposent sur rien. Son client a toujours clamé son innocence, d'autant plus qu'il possède un alibi. Sa compagne, également interrogée au moment de la garde à vue, a affirmé qu'il n'a pas quitté une seule seconde leur domicile dans la nuit du 4-5 mai. Fin 1990, le troisième juge d'instruction nommé sur l'affaire accepte la demande de l'avocat. Une nouvelle analyse des cheveux le disculpe partiellement. Da Silva est remis en liberté le 5 décembre 1990, mais son non-lieu ne sera prononcé qu'en 2002, plus de 12 ans après. L'enquête criminelle repart à zéro. Nous sommes en 2003, 14 ans après les faits. Une femme se présente au commissariat et fait d'étonnantes révélations. Le nouveau témoin de cette affaire demeure anonyme, et pour cause. Elle a mis une véritable pagaille dans l'affaire, tout en nuisant à la réputation de la victime et de son frère, Marc Bâton. Aux gendarmes, elle déclare être une proche de Sylvie Bâton et parle d'un trafic de drogue qui s'est déroulé entre 1984 et 1989. Marc Bâton est un consommateur avéré. Contrairement à sa sœur, il n'est pas apprécié des habitants d'Avalon. Sa présence sur la place publique, tard le soir, dérange. Marc est arrêté et mis en garde à vue. Il est suspecté d'avoir un lien avec le meurtre de sa sœur. Les informations du témoin sont imprécises. Selon elle, Sylvie achetait de l'héroïne et du haschich auprès de son frère pour la somme de 2000 francs, afin de tout revendre sur le campus universitaire de Dijon. Aucune de ses connaissances à l'université n'avait été mise au courant d'un quelconque trafic. La témoin finit par se rétracter en disant qu'elle a tout inventé. Ses raisons demeurent obscures, mais ses déclarations ont retardé un peu plus les investigations. Le dossier est en passe d'être abandonné, jusqu'à ce qu'en 2006, un nouveau juge d'instruction soit nommé. Il s'appelle Charles Prats, et son investissement dans cette affaire va tout changer. Il décide de confier l'enquête à Olivier Serrant, de la police judiciaire d'Auxerre. Les deux hommes mènent des recherches très poussées. Dans le dossier, Prats se rend compte que les scellés n'ont pas fait l'objet d'une analyse ADN, comme le plaid qui avait été saisi sur la scène de crime. Le juge décide de se rendre lui-même dans les caves du tribunal d'Auxerre pour récupérer les pièces à conviction. Ces dernières ont été déplacées pour être mises dans un carton qui allait partir pour la destruction. Il s'en est fallu de peu pour que l'affaire Bâton ne se solde sur un cold case. Le juge veut exploiter les nouvelles avancées de recherche ADN. Pour cela, il confie la couverture trouvée sur la scène de crime à une experte en génétique. En juillet 2006, il obtient des résultats. Entre les années 80 et les années 2000, la France a connu de nombreuses affaires criminelles impliquant des tueurs itinérants. Le juge d'instruction émet l'hypothèse que le tueur pourrait ne pas être français. Le policier Olivier Serrant se charge de contacter Interpol. Durant plusieurs mois, les réponses négatives se succèdent, jusqu'à ce qu'en mars 2007, un appel de la police allemande relie le meurtre de Sylvie Bâton à Ulrich Münstermann. Le 9 novembre, Münstermann est extradé de sa prison de Geldern pour être interrogé à Auxerre par Olivier Serrant et son équipe. L'homme est considéré comme dangereux, au point d'être escorté par de nombreux policiers. Il n'a pas perdu son physique d'ancien culturiste. Face aux enquêteurs, il a un regard dur, parle très peu. Il nie avoir tué l'étudiante. Pourtant, les preuves sont accablantes. Lorsqu'on lui soumet les résultats du test ADN et qu'on l'interroge sur la présence de son sperme sur la couverture de Sylvie, Ulrich raconte qu'il a rencontré la jeune femme à l'occasion d'un camping dans le courant du mois de mai 1989. Ils ont discuté, se sont plu mutuellement et ont couché ensemble. Après quoi, il est rentré en Allemagne. Les enquêteurs ne sont pas dupes. Ulrich ne ment pas sur sa présence au camping municipal d'Avalon. En revanche, il est impossible de savoir le nombre de nuits qu'il y est resté. Selon les proches de Sylvie, il n'y avait aucune chance pour qu'elle traîne sur le site. En revanche, il est très probable qu'Ulrich ait repéré la jeune fille au préalable. Il avait probablement enregistré ses habitudes, comme le fait de laisser la porte entrouverte pour laisser entrer son chat en fin de journée et se faire couler un bain. Ulrich n'a eu juste qu'à en profiter pour entrer dans la maison en sautant par-dessus la barrière, se glisser discrètement dans l'entrebâillement de la porte et commettre son forfait au moment où Sylvie se déshabille pour prendre son bain. Pour le juge Prats, ce scénario est plausible. Il n'attend plus que les aveux d'Ulrich. Ils n'arriveront jamais.